Sinon, vous allez finir sur un strapontin tellement ça se vend comme des petits pains, comme disent les jeunes. Vous connaissez l'expression. Merci beaucoup.
C'est vrai que c'est jeune.
Les jeunes de notre époque.
Merci beaucoup, Artus.
Merci à vous. Merci, c'était un plaisir.
Merci d'avoir écouté On refait la télé. Retrouvez Jade et Eric Dussard tous les samedis à partir de 11h30 et quand vous le souhaitez en podcast sur RTL.fr et l'application RTL. Tout de suite, retrouvez les grosses têtes de Laurent Ruquier.
RTL, il est 3h.
RTL,
les grands moments des grosses têtes.
Une question pour Frédéric Hureau qui habite Rottier dans l'Ille-et-Vilaine. Et là, je vous emmène au 19e siècle, à partir de 1871. Qu'est-ce qu'on appelait le photographe qui n'était pas un photographe?
Pardon?
Un peintre?
Un peintre?
C'est un caricaturiste?
Non, mais ça.
Silhouettiste?
Ça silhouettiste, non.
Ça représentait une personne?
Ah oui, c'était quelqu'un qu'on surnommait le photographe, mais qui n'était pas un photographe.
C'est un métier qui n'existe plus, alors c'est un métier d'antan.
Ça, je vous le confirme. C'est un métier qui n'existe plus.
Est-ce que c'était lié à la lumière?
À la lumière, non.
C'était un commerce?
Un commerce, non.
Ça a un rapport avec le fait qu'il reconnaissait les gens?
Non.
Il travaillait dans un phare?
Non.
Il gravait?
Non.
Est-ce qu'il avait un petit oiseau qui sortait?
Non.
Est-ce qu'il travaillait dans un lieu particulier et uniquement dans ce lieu?
Pas vraiment, mais oui, c'était plutôt toujours au même endroit, oui.
C'était dans la rue comme un vitrier?
C'était souvent dans la rue à l'époque, mais pas toujours.
C'était spectaculaire?
C'était
ah, oui.
Ah oui, spectaculaire.
Ils avaient des singes?
Il y a des gens qui aimaient voir ça, mais après, ça l'était moins.
Mais c'était pas fait pour faire le spectacle, c'est juste...
Non.
C'est pas un spectacle de rue, en fait?
Non.
C'est des gens qui travaillaient et ça impressionnait les autres.
Alors attention, hein, le photographe, lui, c'est un métier, on va dire, accessoire.
C'était lié à autre chose.
C'était lié aux condamnés à mort.
Expliquez.
C'était à l'exécution, il y a quelqu'un qui venait constater que la tête était bien coupée.
Alors, on se rapproche, vous avez raison, on est au moment de la condamnation à mort, monsieur Manœuvre, vous avez mis le doigt dessus.
C'était celui qui limait la lame.
Non.
Qui soulevait la tête et la montrait au public.
Alors, ce n'est pas le bourreau, mais alors c'est quelqu'un qui aidait le bourreau, soulevait pas la tête pour la montrer.
Il mettait la tête dans le panier et gagnait 2 points.
Il donnait le couteau.
C'est celui qui plaçait le corps, en fait.
Il déclenchait la lame?
Il plaçait le corps.
Il faisait basculer la planche.
Pardon?
Il faisait basculer la planche.
Non.
Il déclenchait la lame?
Non.
C'est celui qui construisait la guillotine.
Il demandait au condamné à mort s'il voulait un verre de rhum ou une cigarette.
Non.
Il validait le fait que c'était bien lui qu'on devait tuer?
Ah non, non plus, non.
Il le regardait pour identifier le condamné?
Non, mais vous avez quasi donné la réponse. Bon, il y avait le bourreau.
Il haranguait la foule. C'était l'assistant du bourreau.
Alors là, voilà.
Il avait eu jusqu'à 8 assistants.
L'employé de bourreau, en quelque sorte. mais sauf que le photographe, il avait
une fonction particulière.
Un rôle bien précis.
Il s'occupait de la tête.
Il prenait les empreintes.
Alors, il s'occupait de la tête, mais.
Est-ce que c'est lui qui amenait le corps et qui le plaçait sur le bio?
Il coupait le col de chemise.
C'était comme un huissier, il constatait, en fait.
Non.
Ah, c'est celui qui mettait le sac en plastique sur la tête?
Ah non, non.
Alors, est-ce qu'il tenait le monsieur
plastique en
disant oui, c'est ce que j'aime dire.
Est-ce qu'il tenait le monsieur pour pas qu'il bouge?
Voilà, écoutez, je vais vous accorder la bonne réponse. Il était chargé de vérifier que le condamné se tienne bien droit, la nuque bien offerte au couperet.
Quelle horreur.
Et qu'il ne rentrait pas la tête dans les épaules.
Parce que tu peux avoir un réflexe quand même, genre, ouh, ça va faire mal.
Ça va piquer. Ça picote.
Tu peux avoir un petit réflexe conditionné, tu vois.
Si besoin, il tirait même le condamné par les cheveux ou les oreilles. S'il était chauve, pour ajuster la tête du condamné jusqu'à la dernière seconde.
Pour pas qu'il rentre la tête dans sa carapace.
Il trouvait le bon angle, ou plutôt la bonne pose, d'où son surnom, le photographe.
Quelle horreur, c'est monstrueux.
Il fallait trouver la bonne pose pour le condamné.
Clic, clac. Merci Kodak.
Bonne réponse collective, hein, on va dire.
Et surtout Philippe.
Oh, une question zoologique, mais qui normalement devrait appeler une réponse très rapide de la part de Monsieur Baffy, et ce sera pour Fabrice Grangemar, qui habite Marat, dans le Puy-de-Dôme. Quel animal a 5 yeux?
L'araignée?
Un insecte?
Non.
La pieuvre?
Non.
C'est un insecte?
Un insecte, oui.
La mouche?
La mouche?
La mouche, non.
Le papillon?
Non.
C'est un insecte qui vole?
Ça se trouve en France?
Alors, 2 gros yeux, voyez, plus...
La fourmi?
Non.
Est-ce que ça vole?
Ça vole?
Ça vole, oui.
Le morpion.
Carabée.
Le carabée, non.
Une abeille.
L'abeille. Bonne réponse de Monsieur Beaugrand-Ballon. Baffy.
Petite abeille porte le nom de Maya. Petite, oui, mais espiègle Maya. Qui a vraiment peur de rien.
Tadam, 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 tadam.
Qui suit toujours son chemin. Venez donc de mourir la
d'être dans
de Maya.
Je rêverais de pas avoir d'oreilles, moi.
Vite, de l'insecticide.
Alors, ça.
5
c'est
lieux.
C'est pas rock'n'roll, ça, hein, Philippe.
Mec, à la veille, c'est complètement.
Je vais même pas répondre.
Ah, c'était même pas toi qui parlais.
Toi, Philippe, tu préfères les scarabées Bourdon, les Beatles.
Putain, mais tout le monde limite, j'en ai deux autour de moi.
Ouais, il y en a partout, nous sommes tous. Hashtag je suis Philippe Manœuvre.
Ouais, nous on n'est pas en rupture de stock.
Il y a plus de Philippe Manœuvre que de livres.
Mais on n'est pas en rupture de stock, non.
On est partout tout le temps.
Philippe, vous laissez pas faire par ces deux cornichons.
Mais non, mais moi je suis abattu parce que j'avais trouvé le photographe et vous dites c'est une bonne réponse collective.
Les grands moments des grosses têtes sur RTL.
Monsieur Bénichou, vous êtes content d'être parmi nous encore ?
Je suis fou de joie d'être parmi vous encore. Encore, disons, je le traque. Je sais pas si je pourrais payer les traites de la maison de campagne pour mon petit-fils, mais t'as fait rien.
Vous n'avez jamais eu de maison de campagne, vous, Pierre ?
Mais non.
Mais enfin.
C'est pour les cons, la maison de campagne.
Ah bah, je vous remercie.
C'est agréable.
Il y en a qui en ont plusieurs, en plus.
Je parle pas des riches.
Ah, pourquoi tu n'aimes pas la campagne ?
Parce qu'il aime rien, d'abord.
Non, d'abord, et en plus, parce qu'il y a des...
Ça sent mauvais, il y a de la bouse.
Non, c'est triste. La journée, tu te fais chier, la nuit, t'as le trac.
T'as bon, peur la nuit, un grand garçon comme toi.
Et puis, il y a des... L'autre jour, j'ai vu... Il y avait un truc en pleine nuit, là. Il y avait un mégot qui marchait, dis donc. On m'a dit, c'est un ver luisant. J'ai pas cru.
Ouais. Il prend des produits, à mon avis.
Non, mais je pense qu'il ne faut pas lui poser trop de questions non
c'est
plus.
C'est vrai. Hein. Ouais. Alors, c'est quand même c'est le principe ça. De l'émission. En voici une première, justement, une citation pour Jean-Marc Varon.
Bien rebondi.
Qui habite Sevran, en Seine-Saint-Denis, qui a dit « Mon meilleur ami est parti avec ma femme, il me manque.
» C'est horrible.
Ah, c'est super.
Pierre Doris.
Pierre Doris, non.
C'est un Français.
C'est plus récent et c'est français.
Et il n'est pas décédé puisque c'est plus récent.
Il n'est pas décédé.
Olivier de Benoist.
Et c'est Olivier de Benoist. Voilà. Bonne réponse de Florian Gazan. Une autre citation pour Cyril Cordonnier qui habite Saint-André-les-Lilles.
Qui est toujours mal chaussé.
C'est dans le Nord. Qui a dit « J'ai commencé à peindre des paysages quand j'ai compris que jamais un arbre ne viendra me dire qu'il n'était pas ressemblant. »
Monet.
Monet, non.
Un peintre exposé dans des grands musées.
Non.
Un peintre humoriste, en tout cas.
C'est un petit peintre.
Alors, quelqu'un qui n'est ni humoriste, ni peintre.
Ah, j'ai compris. Un sans-pé, un sans-pé, ou quelqu'un comme ça.
Non.
Sans-pé.
Non, mais
un dessinateur.
Non. Quelqu'un qui est à la fois drôle et qui peint. Voilà.
Qui a un hobby qui est la peinture.
Exactement.
Un mandalire.
Bonne réponse de Caroline Diamant.
Ah oui, mais vous disiez un peintre, alors évidemment.
J'ai dit quelqu'un.
C'est un peintre qui m'a mis sur la voie.
C'est pas parce qu'elle s'est enlevé le pinceau que c'est pas elle.
Vous me l'avez enlevé de la bouche, si j'ose dire.
On peut y remettre.
Et ça va mieux depuis.
Oui.
Oh bah il y a une croûte.
Pourvu qu'elle la fasse pas encadrer.
C'est impressionnant et non pas impressionniste.
Elle peint bien, Mandalire, elle peint bien.
Hein. Ah oui, pareil.
Elle a été avec Dali pendant quelques temps.
On l'adore. On aimerait bien qu'elle revienne. Elle veut pas.
Bah là, ça va lui donner envie.
Elle veut pas. Elle pense qu'on va se moquer d'elle.
C'est pas le genre de la maison.
Viens donc, Amanda, on va rire.
Mais pourquoi, quand elle venait avant, personne se moquait d'elle ?
Non, sûrement.
Ils avaient peur.
Vous avez déjà vu des toiles d'Amandalire, Jean-Jacques ? Parce que vous devez bien le connaître.
Oui, je le connais bien, oui.
Tu l'as connue de son vivant.
C'est sûr que si elle écoute, elle va revenir.
Tu l'as connue au service militaire.
Voilà. C'était mon adjudant de chambrée.
Non, moi, elle m'a dit, je viendrai bien, mais je suis sûr qu'on va encore se moquer de moi et ça me casse les couilles.
Comme quoi, ça repousse.
Une autre citation pour Thomas d'Herbecourt, qui a dit « J'ai lu un truc sur les méfaits de l'alcool. Du coup, j'ai arrêté de lire.
Je lis. » Bon.
Ça, c'est anglo-saxon, évidemment.
Non, c'est français, monsieur.
C'est vivant.
Non, quelqu'un qui est mort.
Alors, Boris Vian,
non.
Pas son genre.
Antoine Blondin,
non.
C'était un chanteur, un dessinateur.
Un chanteur, non.
Un dessinateur.
Non plus.
Un acteur.
Jean Gabin. C'est mort.
Jean Gabin, non.
Qu'il était mort.
Oui, il est mort.
Eh ben, c'est le monsieur qui est mort à presque 100 ans, Michel Galabru.
Non.
Jean Carmet.
Et c'est Jean Carmet. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni et Michel Bernier. Ah, ça va vite aujourd'hui. Alors, une dernière citation pour Pauline Guillemin, qui habite Sornay, en Saône-et-Loire, qui a dit « La boxe, c'est beaucoup d'hommes blancs qui regardent deux hommes noirs se cogner l'un contre l'autre. »
Ali. Mohamed Ali.
Et c'est Mohamed Ali. Bonne réponse. Ça va vite aujourd'hui. Et la question concerne une chanson que vous allez devoir retrouver, une chanson qu'on doit à un ecclésiastique, Gabriel Charles, abbé de Lattaignan, chanson qui date du XVIIe siècle.
Oh, c'est le mot et la chose, l'abbé de Lattaignan.
Hein, c'est vrai que c'est un poète et un chansonnier français, un on lui olé, doit... Olé, oui. Comment ça, olé, olé.
Bah, le mot et la chose, c'est quand même...
Ah. Pas sûr que ce soit
c'est élégant,
qu'on...
quand même.
Vous êtes sûr que c'est à lui qu'on doit le mot et la chose?
Je suis pas certain.
Oui, parce que nous aussi, on n'a pas inventé.
Je suis certain. Non, mais attends, il est professeur.
Je crois qu'on lui doit aussi le pied et la chaussure. Ouais. Je suis pas sûr.
C'est la digue du
comment
cul.
Il s'appelle?
La main et la bague. Donc.
Est-ce que c'est une comptine qui est restée qu'on chante aux enfants?
Bah forcément oui.
Ah oui, c'est quelque chose qu'on chante aux enfants, même si c'est pas vraiment fait pour les enfants au départ.
Le curé de Camaret?
Non.
Il était
Père
un petit navire.
Père du Panlou.
Non. Il était chanoine à Reims. Mais bon, c'est vrai qu'il avait une existence pas très catholique. Il aimait les soupers fins. Il aimait être repu par les repas. Et paraît-il, il terminait souvent sous la table. Mais il aimait composer des chansons, parfois avec des couplets grivois. Et on lui doit peut-être une des plus célèbres chansons françaises.
La table ronde.
Une chanson à boire.
Buvons-en un coup.
Une chanson à boire. Oui, c'est en quelque sorte une chanson à boire.
Des nôtres.
Pas vraiment à boire, en fait.
À manger, plutôt.
Ah non.
À vomir.
Non plus.
c'est un peu militaire.
Militaire, non.
Mais est-ce que c'est... Ouais, je sais pas.
C'est entraînant.
C'est assez entraînant. Il a écrit 8 couplets en tout, hein, quand
même. Chenille.
La chenille.
Je tape au numéro 1.
Je demande Mlle Angèle, la concierge répond. Mais quel métier fait-elle?
Elle fait le pantalon des jumeaux et des gilets flanelles. Elle fait le pantalon des jumeaux et des gilets de coton. Ah ah ah, je ne connais pas ce genre de métier. Allez voir à côté.
Je tape au numéro 2.
Je demande Mlle Angèle, la concierge répond. Mais quel métier fait-elle?
On laisse Christina faire le numéro 3.
Jean-Fille, vas-y, chérie.
C'est simple. Je tape au numéro 3 et j'attends Mlle Angèle.
Je tape au numéro 4.
La concierge me répond. Mais quel métier fait-elle?
Elle fait des pantalons, des jupes et des jupons.
Est-ce que la rue est longue?
Je tape au numéro 5.
J'espère que c'est une voie sans issue.
C'est pas le petit prince. Le matin, j'ai vu mon prince.
C'est quoi ça?
C'est le truc qui
va. Le petit prince
Ali. Ah oui,
il est vraiment marqué
par l'empereur. Ça va, mais le petit prince.
Il est vraiment marqué par Albert.
Totalement. Non, c'est pas ça.
C'est pas ça.
Non.
C'est pas un dimanche matin avec ma putain sur ma mobilette.
Oui, c'est ça. Un dimanche matin.
C'est quoi ça?
Un dimanche matin avec ma putain sur ma mobilette.
Je lui ai mis la main entre les deux seins, direction Quéquette.
Les coins de mon cul, tu les verras plus.
J'en ai fait des brosses.
À 10 francs le kilo, c'est du bon boulot pour nourrir les gosses. Mon frère était vétérinaire, c'est pas ça?
Non.
Ah, il soufflait dans le cul des chevaux.
Non.
Les couilles de mon grand-père sont pendues dans l'escalier.
Oh, aïe, c'est bien dommage.
Mais c'est le genre là.
Ah oui, il sortait dans les cabarets, finissait sous la table et il aimait chantonner, entonner des couplets grivois, voilà.
C'est pas cette fameuse
Alice,
chance.
Faut que ça glisse.
Fruit de la passion.
Ça, c'est Francky Vincent, écoutez.
Vas-y, l'abbé, c'est bon. Vas-y, l'abbé, c'est bon. Vas-y, l'abbé, c'est bon.
Vers 40 ans, il a failli se marier avec une jeune fille de 16 ans.
Oh, ah oui.
Et puis, bon, le projet a avorté, la jeune fille aussi.
Vraiment, quel abbé.
Dur d'être un bébé.
C'est pas la chanson qu'on dit trempe-la dans Will, trempe-la dans l'eau.
La souris verte.
Escargot tout chaud.
La souris verte, pas du tout. Et la chanson, je vais vous l'interpréter si vous le souhaitez. 1, 2, 3. J'ai du bon tabac
dans ma tabatière. J'ai du bon tabac, tu n'en auras pas.
J'en ai du bon, du frais, du râpé.
Mais ce n'est pas pour ton vilainet. J'ai du bon tabac dans ma tabatière. J'ai du bon tabac, tu n'en auras pas.
Deuxième couplet. J'ai du bon tabac pour bourrer ma pipe. J'ai du bon tabac.
On a
jamais chanté celle-là.
Ah, je vois la gueule de la tabatière.
Ne bougez pas. Laurent Ruquier et les grosses têtes reviennent dans un instant sur RTL.
Il suffit que tu apparaisses pour repousser les vents. Il suffit que je te reconnaisse, car tu es le sel, la cannelle, le piment. Quand je m'ennuie, que les jours perdent leur saveur, quand la vie fuit, qu'il ne reste que la torpeur, quand le froid me saisit et me fige, que la lassitude m'affaiblit et m'oblige. Il suffit que je te regarde pour que le ciel s'allume. Il suffit que je te regarde, car tu es le sel, la cannelle, le piment. Les grosses têtes, Laurent Ruquier.
Pour Joanne Quillet, qui habite Bourg en Gironde.
Est-ce que c'est agréable?
J'aimerais que vous retrouviez le nom de celui qui s'est intéressé à la vie de Jésus, puisque c'est le titre d'un essai qui fut publié pour la première fois en 1863.
Ernest de Renan.
Et c'est Ernest Renan. Bonne réponse d'Olivier Bellamy. Bravo.
Bravo.
L'Ecclésiaste.
Moi, j'hésitais. Moi, j'hésite entre Renan et Robert Hossein.
Non.
C'est beaucoup occupé.
La vie de Jésus, bravo. Ernest Renan. Bravo, monsieur Bellamy. L'œuvre majeure d'Ernest Renan est à nouveau parue dans une nouvelle édition chez Calman Lévy. 411 pages, la vie de Jésus, signé Ernest Renan. Bravo. Là, vous voyez, monsieur Bellamy.
Ouais, je remonte dans votre estime.
Ah oui, oui, oui. Et je vais vous donner maintenant le nom d'un roman qui resta inachevé et qui s'appelait Colombe Blanchet. Quel est l'auteur de cette Colombe Blanchet qui ne fut pas achevée parce que l'écrivain mourut au front?
Au front de quoi?
Au front, pas au front.
Au front, au front.
À la guerre.
Il a une blessure au front.
À la guerre, la première guerre
mondiale. La première.
Il y a combien de pages?
Comment ça?
Il a écrit combien de pages avant de mourir?
Oh bah, il en a quand même écrit quelques-unes, parce que on finira par publier...
Est-ce que c'est un poète?
Ah, un poète, non.
Mais il a fait d'autres choses avant.
Ah oui, il a un roman, évidemment, resté célèbre.
Bah, lequel?
Le plus marquant. Bah, non, ça, je ne vais pas vous le donner, ce serait trop facile. Ah, voilà pourquoi j'ai choisi, évidemment, son dernier roman, qui, lui, n'était pas terminé.
Est-ce qu'on le lit à l'école, beaucoup?
Ah oui, oui,
Victor
oui.
Victor Hugo?
Et même, ça a été on va dire, adapté au cinéma à une ou deux reprises.
Émile Zola ?
Émile Zola, non.
Anatole France.
Il est mort très jeune.
Émile Zola, pendant la Première Guerre mondiale.
Ah oui, écoute, Émile Zola, qui a dit Émile Zola ?
Qui a dit Émile Zola ?
Il peut
pas insupportable, ce manque de culture.
Il peut pas être sexy et cultivé. Hein.
Émile Zola ?
Il était lieutenant de réserve, il a été mobilisé.
Le maréchal Pétain.
Non, mobilisé en août 1914 et effectivement, il est mort au combat.
C'est pas l'auteur du Grand Maul ?
Alain Fournier.
Bonne réponse de Christophe Beaugrand, aidé par Bernard Mabille.
Alain Fournier.
Joli. Alain Fournier, l'auteur du Grand Maulne, il était en train de rédiger un nouveau roman qui s'appelait Colombe Blanchet, qui restera inachevé. Porté disparu avec 20 autres compagnons d'armes, il fut jeté dans une fosse commune et on aura finalement identifié son corps uniquement, vous savez, en 1991.
Ah oui,
Alain Fournier. Grâce à la voilà pour votre culture. De la littérature contemporaine, là c'est plus facile. Voilà. Monsieur Haas, vous pouvez au moins là balancer des noms d'auteurs qui vivent encore aujourd'hui, car c'est une femme en plus qu'il faut trouver, il n'y en a pas non plus tant que ça, des écrivaines qui, par exemple, a reçu le prix Médicis.
Amélie Nothomb.
Non, non.
Annie Arnaud.
Elle a reçu le prix des prix littéraires pour son roman Il faut beaucoup aimer les hommes. Mais c'est vrai que le roman qui a le plus marqué, on va dire, sa carrière d'écrivain ou d'écrivaine, c'est le premier roman qu'elle a publié qui s'appelait Truisme.
Marie Darrieussecq.
Ah, bah oui.
Marie Darrieussecq, excellente réponse. De Monsieur Beaugrand.
C'est bien. Femme qui se transforme en truie.
Et c'est le biopic de Christine Bravo.
Faut que j'achète plus de livres au relais et tout, là, à la gare.
Au relais.
Oui, parce que c'est vrai que Télé 7 jours et Télé Loisirs, ça suffit pas.
Parce que j'achète toujours les trucs, les mots croisés et tout, mais ça, dans les cette émission, ça aide pas, quoi.
Bah, puisqu'on est dans les femmes qui écrivent et qui sont des écrivains d'aujourd'hui.
Christine
des
Bravo.
Non. Bah oui, c'est vrai que c'était une écrivain, Christine, quand elle écrivait. Maintenant, elle écrit plus, mais. Non,
elle navigue.
Mais là, je vous parle, pareil, d'une femme qui a écrit de nombreux best-sellers. Plus que Marie Darrieussecq, qui a surtout eu du succès avec son premier roman Truisme, un peu avec les autres aussi, mais c'est quand même le premier qui avait le mieux marché. Là, on parle de quelqu'un qui a multiplié les best-sellers. C'est une femme de lettres française, née en 1970 à Boulogne-Billancourt. Et elle fut lauréate en 92 du concours organisé par une radio consoeur, France Inter, la plus belle lettre d'amour. Elle était prof de français à cette époque-là. Elle a obtenu un grand prix et surtout apportant le prix RTL. France Inter, c'est bien, mais RTL, c'est mieux. Le grand prix RTL Lire pour son premier recueil de nouvelles. Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part.
Anna Gavalda.
Anna Gavalda. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Tout le monde l'avait.
Un jour, on a bloqué la circulation à côté de Fontainebleau parce qu'il y avait des chiens et qu'elle adore les animaux. Et on a tout bloqué le carrefour pendant bien 2h30 pour récupérer deux chiens.
Ça, c'est une bonne anecdote.
Non, mais elle adore les animaux.
Quel est l'intérêt de cette anecdote d'Harry Boutoul ?
C'est quelqu'un qui adore les animaux, donc c'est bien de dire ça. Quelqu'un qui peut passer, qui est connu à ce point-là et qui peut... S'arrêter 2h30 pour récupérer un chien, c'est bien.
Quelqu'un qui a rien à foutre, surtout.
Alors, je voudrais monter d'un cran avec un ingénieur, écrivain, essayiste, dramaturge autrichien. Et on lui doit des œuvres comme L'homme sans qualité.
Musy.
Le prénom
Du Louvre. Du Louvre.
Musy,
Non, Musy. Pas Musy du Louvre.
Si, les Musy du
L'homme
Louvre.
L'homme sans qualité si de Robert Musy.
Robert Musy, bonne réponse d'Olivier Bellamy, qui est une vraie grosse tête.
Patrick Sébastien, c'est énormissime. Vous êtes mon enfance, le carnaval.
Tu es de mon enfance, mais ta gueule. Mais t'es monté sur ressort,
bien sûr, ça s'arrête
jamais.
Oui, il est monté sur personne.
Oui, personne oui.
Et Laurent, c'était génial, vous convoquez mes souvenirs.
Il aimerait, mais...
Et puis, c'est extraordinaire ce que vous avez fait avec le club de rugby, c'était des émotions infinies.
C'était mon plus bel orgasme.
C'est vrai.
Champion d'Europe.
Et puis, vous êtes marié sur la pelouse de Brive-la-Gaillarde.
Exactement. Et je me suis séparé sur la pelouse, non plus.
Il a connu plus d'une pelouse, croyez-moi.
Est-ce que vous avez beaucoup plaqué dans votre vie, Patrick ?
Non, j'ai été beaucoup plaqué. Mais c'est vrai que le rugby, c'est ma famille, c'est mon ADN.
Moi, c'est mes calendriers.
Bah oui, de mon ami Max.
Est-ce que vous avez
Moi aussi, mes calendriers.
Ah oui, ah, vous êtes là, vous, oui.
Ah bah oui.
Elle est contente de revoir monsieur Sébastien.
Bah, ça fait
40 piges qu'on s'était pas vu. On s'est tombé dans les bras. Elle m'a fait une petite langue. C'était merveilleux.
N'exagère pas.
C'est pas vrai.
C'est le chien.
C'est le chien. C'est le chien.
C'est Noix de Coco qui a fait ça, Pierre.
Non.
C'est vrai.
Attends, j'arrive ici depuis le mois d'avril, en vieille, en grand-mère.
Mais non, mais
alors, faut qu'on vous dise, monsieur Sébastien, qu'il y a une petite idylle qui est en train de naître entre Johan Rioux et Dari Boudboul.
Oh oui, c'est ma grosse meringue.
C'est vrai.
Ma grosse meringue.
Et lequel va monter l'autre?
Mais je peux pas le toucher.
Regarde, on est petits tous les deux. On est sportifs tous les deux.
Meringue.
Ce qui est bien, c'est que quand Johan Rioux est là, Paul Alcarat me se dit finalement, je suis très normal.
Ouais, ouais. Non, mais il pourrait faire la signalétique dans les aéroports. Hein. Ouais. Et ben, bon, figure-toi qui est passé la journée avec toi. J'ai ton livre avec toi. Bienvenue
avec vous.
Ce livre, vraiment, Patrick,
tais
notamment.
Tais-toi, grosse meringue. Allez,
le livre, il m'a bouleversé. Vraiment, je l'ai pas fini encore.
Tu sais lire?
Et vraiment, le bouquin, il est bouleversant, vraiment. Et il y a un passage. Est-ce que je peux citer quelques petits mots, Laurent?
Allez-y, monsieur.
J'ai pourtant l'impression que je pourrais apporter des choses chouettes à quelqu'un. Une fois, juste une fois, j'aimerais tomber amoureux pour voir ce que ça fait. Et vraiment,
c'est votre livre à vous, c'est le tien, ça. En fait, c'est pas les grosses têtes, c'est les petits puceaux, et puis.
Ouais, bien sûr. Et vraiment, le livre, il m'a touché parce que, et Laurent, c'est très important. C'est pas à Paul de s'adapter à nous, c'est à nous de nous adapter à Paul. C'est très important ce qui est marqué dans le livre.
Qu'est-ce que je fais? Moi, je m'adapte à tout le monde ici. Vous voyez?
C'est bien ça.
Franchement, je fais mon maximum pour.
En plus, il pose des questions, c'est super. Il s'adapte très bien, moi.
Oui, mais tu sais que depuis hier, on a appris qu'il est pas du tout puceau, notre petit Paul.
Non, mais ça va. Alors, question suivante.
Mais oui, Paul raconte ses conquêtes féminines.
Ouais, j'adore. Les filles lui écrivent sur les réseaux et Paul, il prend le train et il les rejoint. C'est ça qui est beau. À chaque fois, tu prends le train.
Non,
Paul.
Il les rejoint et il prend leur train.
Exactement.
Donc en fait, il n'y a plus que Johan de puceau dans les gros.
Ouais,
flèches.
Mais j'ai un flash sur quelqu'un.
Oh,
que vous connaissez, pas. Laurent, que vous connaissez.
T'as un flash sur qui?
Sur qui?
Quelqu'un d'autre.
Dis-le.
Non, mais.
C'est quoi ton crunch?
Muriel Robin.
Quelqu'un avec qui vous travaillez?
Oui, mais je peux pas le dire.
Des minaudes.
On m'a toujours dit pour vivre heureux, vivons cachés.
Rachel qui travaille avec nous.
C'est un humain?
Non, c'est pas Rachel, c'est presque Rachel.
Ah, c'est Karine Dublanche.
C'est
quelqu'un d'ici RTL.
Il faut pas dire c'est la jeune Carole. Mais je.
À notre hôtesse.
Oh là là.
Elle est toute gentille, elle est toute.
Cette jeune femme n'est peut-être pas d'accord, enfin, vous voyez.
Non, mais pour l'instant, je lui ai rien dit, elle sait pas, elle est pas.
Ben non, elle est là.
Elle est là derrière toi. Elle est grave.
Elle est derrière toi.
Oh merde.
Les choses n'ont pas changé, quasi, monsieur Sébastien. J'ai des citations.
Je te jure, je me régale. Moi, je vous écoute sur la route tous les jours, je me régale.
Oh, c'est gentil.
Vous êtes formidable.
Alors, on est heureux que vous soyez de retour parmi
c'est moi
nous.
Qui suis fier.
Revenez quand vous pouvez. Voici une première citation pour monsieur Verdun qui habite.
Sacha Guitry, ça n'a pas changé.
Il habite Verdun.
Non. Monsieur Verdun habite Marseille. Il y a eu un glissement de terrain.
C'est bien.
Qui a dit.
J'ai une très belle blague sur Verdun.
Allez-y.
C'est un couple qui mange dans un restaurant de Verdun, et puis il y a le mec qui se met à pleurer d'un coup. Alors le patron s'approche et il dit à la femme, qu'est-ce qui se passe? C'est pas bon. Et la femme, elle le prend à part, elle dit, écoutez, c'est parce que, je vous ai expliqué, le grand-père de mon mari est mort ici en 40, et son arrière-grand-père est mort en 14, alors il est très ému. Alors le patron, il fait, alors là, moi, je suis patriote, je vous offre le repas. Donc la femme revient vers son mari, elle dit, le monsieur nous offre le repas, et le mec fait, Dankeschön.
Alors, pour monsieur Verdun, donc, monsieur Verdun qui habite Marseille, qui a dit, quelqu'un qui dit tous les soirs que la fin du monde est pour demain aura forcément raison un jour. Par contre, hier soir, il a eu tort.
Pierre Dac. Des proches.
Non.
Francis Blanche.
Non, Jean-Yann. Jacques Martin.
Posez des questions.
Gueluc.
Qui a dit Gueluc?
Gueluc.
Philippe Gueluc. Bonne réponse de Paul Alcarat. C'est Philippe Gueluc. Plus littéraire et historique aussi. Une citation, une phrase que tout le monde connaît. Mais à qui la doit-on? Pour Candice Jean-Jean, qui habite Villejuif, qui a dit « plaisante justice qu'une rivière borne, vérité au-dessous des Pyrénées, erreur au-delà.
À Fontaine de la
Fontaine de la
François Rabelais.
Pardon.
François Rabelais. Rabelais.
François Rabelais, non.
C'est vieux.
Alors c'est quelqu'un qui était un philosophe.
Un Béarnais.
Montesquieu.
Non.
Montaigne.
Français. Et on est au XVIIe siècle.
Et qui est de la région des Pyrénées?
La Rochefoucauld.
Molière.
Sandrine Rousseau.
Dans ces cas-là, pour
Sandrine. Blaise Pascal.
Pardon.
Blaise Pascal.
Blaise Pascal. Oh. Bonne réponse de Paul Elkarat, sans même que j'ai besoin de donner les dates. Encore littéraire, très compliqué, plus joli peut-être encore cette phrase. On ne se libère pas d'une chose en l'évitant, mais en la traversant.
Cesare Pavese.
Non, c'est ça.
Cesare Pavese. Bonne réponse. Qui était Cesare Pavese?
Bah d'ailleurs, j'ai fait une publication sur lui, qui est un grand auteur.
Ah bah c'est là où j'ai dû la trouver alors.
Exactement. J'ai fait une publication dessus, j'ai même mis la citation. C'est un grand auteur et grand écrivain et poète italien qui s'est suicidé en 50 et qui était très dépressif.
Et voilà. Il s'est effectivement suicidé à Turin en 1950.
Dans une chambre d'hôtel.
Souvent, on fait ça.
Tu as le nom de l'hôtel.
Parce qu'à la maison, c'est pas propre.
Ah bah super, merci.
Bah, en tout cas, c'est bien Cesare Pavese qui a dit on ne se libère pas d'une chose en l'évitant, mais en la traversant. Alors, la dernière citation du jour, après on va passer à des questions beaucoup plus difficiles et culturelles. La dernière citation est plutôt pour vous, messieurs Mabille et Sébastien, parce que je ne suis pas certain que ce soit quelqu'un que tout le monde connaît, mais on va essayer tout de même, qui a dit, et c'est pour Francine Dupire, qui habite Abbeville dans la Somme, qui a dit « Une conférence est une réunion de gens importants qui, pris séparément, ne peuvent rien faire, mais qui, ensemble, peuvent décider que rien ne peut être fait. »
Moi, elle m'a dit qu'il y avait du...
C'est un chansonnier.
Jean Amadou. Pierre-Jean Vaillard.
Pas Robert Rocard.
Grélot, Orgue.
Non.
Pierre-Jean Vaillard.
Non, c'est un écrivain, satiriste, journaliste, pas tout à fait chansonnier, producteur de radio. Je crois même qu'on lui doit l'origine des grosses têtes.
Gérard Cyr. Robert Beauvais.
Robert Beauvais, excellente réponse.
Ah, je connais ma France, je connais la carte de France.
Excellente réponse de Bernard Mabille, mesdames et messieurs.
Ouais. RTL, les grands moments des grosses têtes.
Une question pour Jean-Luc Rousset qui habite Arpajon et on revient à une question sur Johnny Hallyday parce que parmi la liste des chansons que Johnny a refusé de chanter, il y a un gros succès. Là pour le coup, lui qui était assez perspicace, il y a des fois où il passe quand même à côté parce que cette chanson-là, en plus, elle lui aurait vraiment bien collé à la peau, une chanson qu'il aurait sûrement très bien chantée, mais c'est pas lui qui l'a chantée parce qu'il l'a refusée à son auteur. De quelle chanson s'agit-il ?
Il est libre, Max.
Non.
La danse des canards.
Oh non.
Il l'a pas accepté après.
Comment ça, après quoi?
C'est-à-dire qu'il a refusé au début, puis après il l'a reprise, c'est pas ça?
Je comprends pas ce qu'elle dit.
Non, il
l'a refusé au début quand on lui a donné, puis après il l'a reprise.
Ah, vous pensez à la chanson de Balavoine?
Voilà, je ne suis pas un héros.
Je ne suis pas un héros. Alors, contrairement à ce qu'on dit, c'est pas ce qui s'est passé. Je ne suis pas un héros. Il l'a enregistré sur un album tout de suite.
Ah ouais?
Dès que Daniel Balavoine lui a donné, il l'a enregistré. Mais il ne l'a pas sorti en single et il ne l'a chanté pas sur scène. Et Balavoine était un peu déçu. Et là, Johnny lui a dit, chante-la toi si tu veux. Et là, Balavoine l'a chanté à son tour, mais elle était quand même déjà sur un album de Johnny. Et il l'a chanté à son tour. Et là, quand il a vu que Balavoine réussissait à en faire un succès, il l'a ressorti à nouveau.
Ça arrive souvent.
Mais il l'avait déjà chanté.
D'accord.
Alors, est-ce que c'est la chanson d'un autre compositeur, d'un chanteur?
Là, on parle d'une chanson qu'il n'a jamais enregistrée.
Ouais,
mais qui est devenue un tube avec un autre chanteur.
Ça, c'est le principe.
Est-ce que c'est pas Julien Clerc?
La Creuse de Billon, le truc de Billon, la Creuse, là, même si je ne pue la Creuse.
On dirait que ta honte marche et dans la bouche.
Non, c'est pas ça.
Est-ce que c'est pas une chanson de Julien Clerc?
Du tout.
Dans quelles années c'est? 70, 80?
80 plutôt.
80. Uh-huh. Alors, un interprète des années 80.
Je vais même vous dire 80, très exactement.
Est-il mort?
C'est pas Beko.
Pardon?
Est-il mort?
Qui?
Le garçon qui chantait cette chanson.
Le garçon qui chantait cette chanson est toujours vivant.
Ah.
Et celui qui... Toujours vivant, toujours debout.
Et celui qui l'a composé?
Aussi.
Alors, est-ce que...
On cherche le nom de la chanson, finalement.
Oui, c'est ça.
C'est
mais ça nous aiderait de trouver...
Est-ce que c'est un très grand chanteur?
Oh, peut pas le comparer à Johnny, mais c'est quelqu'un qui a fait des tubes. Mais évidemment, ça n'a rien à voir avec Johnny.
Philippe Laville.
Philippe Laville, non.
Fugain.
Fugain, non.
C'est une chanson romantique qui parle d'amour.
Ah, mais c'est vrai qu'elle aurait vraiment parfaitement collé à Johnny. Il aurait pu parfaitement la chanter. Oh. Et puis, il a dit non. Et pourtant, ça a été un énorme succès aussi.
C'est une chanson d'amour.
Oui.
Ah, donc une balade, un truc un peu lent, un peu...
Oui, c'est plutôt lent.
Un slow, quoi, genre...
Une balade, c'est pas tout à fait une balade, un slow, oui.
Un slow, ah... Slow.
Le sud.
Pardon.
Le sud.
Le sud, non.
Laurent, vous pouvez pas nous donner un indice, genre non. Nous passer l'extrait, par exemple.
Et là, alors...
Il pouvait chanter tellement de trucs différents, Johnny...
Ce que je peux vous dire, c'est que le compositeur de la chanson est aussi connu que l'interprète.
Ouais. Ah. Il est chanteur également?
Il n'est pas chanteur.
Il est écrivain.
Non.
C'est Barbe Olivien?
Non.
Il est peintre.
Non.
Il est politique.
Non plus.
C'est pas un parolier habituel.
Ce serait pas Julien Lepers.
C'est Julien Lepers.
Ah, c'est pour le plaisir.
Pour le plaisir.
Pour le plaisir. Ah ouais. Bonne réponse de Florian Gazan et Philippe Gueluc.
Ouais.
Pour le plaisir.
Pour le plaisir.
Et oui, il a refusé pour le plaisir.
Incroyable.
Et c'est vrai que cette chanson lui aurait collé parfaitement. Évidemment, Herbert Léonard qui l'a chanté, mais Johnny l'aurait très très bien chanté aussi.
Ouais,
tant mieux pour Herbert Léonard.
Ouais.
Et tant pis pour notre auditeur, Jean-Luc Rousset, à qui vous faites perdre 300 euros. La question pour Daniel Lepage, qui habite Vélin-Lomprez, en Belgique. C'est une des opérations de chirurgie esthétique, plastique, qui connaît la plus forte demande au Royaume-Uni actuellement. De quelle opération de chirurgie esthétique s'agit-il ?
J'imagine que les débiles doivent vouloir ressembler à Kate Williams.
Non.
À Kate,
non.
Ah, on se fait décoller les oreilles pour ressembler au prince Charles.
Non, mais vous voyez, vous n'êtes pas si loin.
On se fait faire coller alors ?
C'est-à-dire ?
Recoller les oreilles pour ceux qui ont les oreilles trop en parabole satellite ?
Ah non.
Est-ce qu'on se fait greffer un kilt avec rien en dessous ?
Non.
On se fait raccourcir les oreilles.
Raccourcir les oreilles ?
Est-ce que ça a un rapport juste avec la tête ?
Oui, c'est un
petit... Ah, on se fait tailler les oreilles en pointe pour ressembler à Monsieur Spock.
Non, comment
Est-ce que ce sont les hommes qui le font ou les femmes?
Les hommes et les femmes.
Le menton en galoche?
Non.
Mais c'est pour ressembler à quelqu'un de célèbre?
Pas du tout.
Pas du tout.
Le double menton?
Non plus.
Le nez?
Le nez, non.
La bouche?
Non, vous étiez tout près.
Les oreilles?
Le lobe des oreilles?
Alors, c'est-à-dire?
C'est-à-dire qu'on en fait des grands parce que c'est très beau et que ça porte bonheur ou... Oui?
Non, justement.
Non. Ou alors on des tout petits? Comme ils ont beaucoup de punk et qu'ils font beaucoup de trucs, ils remplissent leur lobe d'oreille pour trouver un boulot.
Ah, c'est
j'ai
pas
été
bête.
Trop vite et j'ai été trop loin pour vous.
Expliquez.
Vous comprenez, il y a toute une série, un truc, ça c'est un nom précis, où vous mettez un truc de plus en plus grand dans votre lobe d'oreille jusqu'à ce que ça devienne un gros trou.
Exactement.
Et c'est très laid.
Ça s'appelle les écarteurs. De plus en plus de jeunes ont porté des écarteurs de lobe d'oreille. Et aujourd'hui, ils ont les oreilles abîmées. Effectivement, l'opération de chirurgie qui actuellement connaît la plus forte demande au Royaume-Uni, c'est la reconstruction des lobes d'oreilles. Bonne réponse de Caroline Diamant. Ça coûte 2300 euros pour vous reboucher le trou de l'oreille.
Mais il y a des femmes qui le font pour leurs lèvres.
C'est-à-dire ?
Leurs lèvres du bas.
Comment ça ?
Ça a trop servi et maintenant elles se les font rendre plus petites, rapetissées. C'est les lèvres.
Oui.
Oui.
Qui entourent le trou. C'est à peu près la même conversation.
Non. Si. Non, Daniel. Si. Non, ça n'est pas la même conversation. Non.
Quand elles ont trop servi, maintenant on peut.
Daniel, elle peut vous parler, elle a été pavillon témoin.
Daniel, ça a tellement servi, elle peut applaudir avec à la fin. Oh, c'était vachement bien, chérie.
Ah, pourvu que mon amoureux n'entende pas.
Non, il peut pas, il est en train de se faire reboucher les oreilles. Votre amoureux, vous l'avez laissé, vous ne l'avez pas emmené. Car rappelons-le pour les auditeurs de RTL qui n'auraient pas suivi le feuilleton, Daniel Evenou, c'est seulement la deuxième fois qu'elle est chez nous aux Grosses Têtes. Daniel a un nouvel amoureux et on est content pour elle, hein, Caroline.
On est toujours content pour quelqu'un qui tombe amoureux et qui vous parle comme une gamine de 15 ans avec les yeux qui pétillent.
Pour elle, on est content. Pour lui, en revanche...
C'est quand même bizarre. Hein. Pourquoi ? Le type, il est monteur, il n'est pas capable d'être dans une station de ski.
Mais comment ça se fait qu'il n'est pas venu avec vous alors, Daniel?
Parce qu'on ne mélange pas le travail et la santé.
Yann Moix, je l'ai bien mélangé.
Comment on dit? Et l'amour?
Ah oui, oui.
Bah, Yann Moix, il est venu avec quelqu'un quand même,
exactement,
me semble-t-il.
Exactement, il est venu avec sa fiancée.
Oui, elle est drôlement jolie.
Et
attends, à ton avis, si
menteur, un jour, il a dit, il est venu avec une grosse chinoise.
Il est venu avec Marie-Pierre, sa fiancée. Elle n'est pas sûre qu'elle reparte avec.
Surtout qu'elle l'a racheté juste un bridou.
C'est pas le seul saucisson qu'elle ait racheté, manifestement.
Enfin. Mais vous n'êtes pas bien.
Je vous souhaite
elle
une bonne soirée.
Elle sort avec un prix Renaudot, c'est pas pour entendre ce genre de conneries.
J'espère pour toi qu'elle va laisser la peau. Hein.
Mais si, regarde. Mais si, regardez, elle est morte de rire en plus, Marie-Pierre. Oui. C'est la plus jolie femme, parce que Dieu sait que parmi les grosses têtes, j'ai vu plus ou moins les femmes, les compagnes, les compagnons des uns et des autres. Mais alors, je dois dire, c'est le plus gâté, Yann Moix, hein, franchement.
Oui, j'ai beaucoup de chance.
Ah oui, oui, oui.
Vous n'aimez pas ma femme.
Paul, on n'a jamais connu votre femme.
Oh non, mais ça vous regarde pas. Hein. Ah oui, non, mais ça vous regarde pas. Question suivante, il n'est même pas question de parler un seul instant de ma vie privée, vous savez bien. Mais j'ai eu beaucoup de belles femmes dans ma vie, vous le savez bien.
Mais il y en a une que tu as épousée quand même.
Bah, bien sûr.
Non, il parlait de sa mère et de sa sœur, là. Mais beaucoup de belles femmes, d'accord, mais des gratuites.
Non, franchement, c'est pas raisonnable ce que vous dites là. Encore une fois, vous me jalousez. Vous savez comment je vis, hein, franchement.
Alors, on peut tout dire de nous, mais de vous jalouser, ça, non.
On est con.
Ne bougez pas. Laurent Ruquier et les grosses têtes reviennent dans un instant sur RTL.
This ain't Texas. Keys up. Hey! Stick around, round, 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 round.
Stick around.
And I'll be damned if I can't slow dance with you. Ooh. Come pour some sugar on me, honey, too. Ooh. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a hey. Come take it to the floor now. Woo! There's a tornado. Redemption, passing time, yeah. Ooh, one step to the right. We headed to the dive bar we always thought was nice. Ooh, run me to the left, then spin me in the middle. Boy, I can't read your mind. This ain't Texas. I'll be damned if I cannot dance with you. Come pour some liquor on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a hey, come take it to the floor now. I'll be damned if I cannot dance with you. Come pour some liquor on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a, come take it to the flow now, ooh. Take it to the flow now, ooh. Oops, spurs, boots. To the flow now, ooh. Cannot dance with you.
RTL, les grosses têtes, Laurent Ruquier.
Une question pour Monsieur Toiti, Michael, qui habite Jérusalem. Je vais vous donner 5 pays. Ces 5 pays sont dans le top 5. Le Kenya, la Tanzanie, notez bien les pays. Hein. Mm-hmm. Le Kenya, la Tanzanie, l'Éthiopie, le Mozambique et le Cameroun. Ces 5 pays sont donc dans le top 5. Mais quel top 5 ?
Marathon.
Marathon, non.
Tourisme.
Tourisme, non.
Les, pays,
non.
Les pays où il y a le plus d'Africains.
La chasse. Le plus de morts, non, c'est pas.
Non.
Est-ce que ça a un rapport avec la chasse et les animaux qui sont.
Du
en...
tout. Non, c'est plutôt positif d'être dans le top 5 et c'est plutôt positif pour ces 5
nous,
pays.
Est-ce que vous,
c'est la santé.
Est-ce que vous pouvez
c'est
nous dire.
C'est la santé, ils mangent très très bien.
Non.
Vous pouvez nous dire en quelle position est la France.
On doit être très loin derrière. Très loin derrière.
D'accord. Ça concerne toute la population ou une catégorie de la population
Ça genre... concerne tout le monde.
Ils boivent pas d'alcool.
Ah non.
Ça n'a pas de rapport avec les aliments.
Non.
Est-ce que ça a un rapport avec le biotope, par exemple.
Biotope,
avec quoi? Avec l'ensoleillement.
L'ensoleillement.
Non, mais on se rapproche.
Le top 5 des pays les moins visités par Marine Le Pen.
Oui, le top 5 des pays le moins.
Les plus ensoleillés. En fait, non avec la pluviométrie.
Non, la pluviométrie, non.
Les meilleures conditions climatiques.
C'est non, mais c'est lié à une préoccupation du moment.
Et où il y a moins de pollution.
C'est les pays où on respire le mieux, où l'air est le moins pollué. Bonne réponse de Florian Gazan. C'est un sujet important, l'air, la pollution de l'air. Eh bien, sachez qu'on respire le mieux au Kenya, en Tanzanie,
il y a pas de voiture,
en Éthiopie, au Mozambique et au Cameroun. Bon, s'il y a des voitures, quand même. L'autre n'a pas mis un pied en Afrique depuis 40 ans, il n'y a pas
Tanzanie
de voiture.
Tout
c'est
ça,
con pour réintroduire l'éléphant. Non.
Hein. C'est des pays qui marchent bien, le Kenya. Il y a des problèmes de toutes sortes, mais c'est un pays qui marche bien.
Non, ça se voit que vous n'êtes pas allé voir votre Tanzanie depuis un moment.
T'en es resté autant de Tintin au Congo. Non, mais tu sais quoi? Ils n'ont pas, d'abord, ils n'ont pas d'industrie lourde. C'est des pays, c'est des industries légères. Oui, voilà, mais ils sont tous avec des smartphones, ils sont dans les trucs modernes.
Pas comme nous.
Oui, mais attends, mais le top 5, il concerne les pays d'Afrique. Mais ça veut pas dire que là-bas, l'air est plus pur que, par exemple, dans le continent arctique, où en effet, mais oui.
Heureusement que t'es là, hein.
Non mais c'est vrai, ça ne concerne que les pays d'Afrique.
Ah, c'est sur le continent africain que l'air est le plus respirable.
Voilà. Oui.
Mais dans le monde,
l'air est beaucoup plus respirable quand on va vers le nord, c'est-à-dire quand on remonte vers par exemple les pays d'Islande, etc.
Non, le monsieur se trompe.
Parce
C'est écrit là.
Non mais ce que tu
c'est sur le continent africain que l'air est le plus respirable.
Mais non,
tu ne contestes pas le monsieur.
Le monsieur te paye, il donne les bonnes réponses.
Le monsieur répète ce qu'il a lu dans les journaux.
Mais il l'a lu dans ton livre.
Mais tu vas pas rester longtemps dans cette émission.
Je maintiens ce que j'ai dit.
Je pense que c'est vrai.
L'air est plus pur au nord.
C'est logique.
Mais bien sûr. Tout simplement parce que la flore microbienne ne peut pas s'y développer avec autant de célérité que quand on est en Afrique où bien sûr que l'air est plus pur au Kenya.
Vous notez, Christina, tout ce qu'il dit.
Je comprends rien.
Lorsque on prend par exemple un échantillon d'oxygène en Afrique et que tu le compares avec un échantillon qui sera par exemple en Islande, eh bien l'air il sera plus pur.
Et si on les jette par terre, ils tombent, ça fait le nombre.
Il y a moins de neige au Mozambique qu'en Islande.
Ah tiens, il y a un titre dans la presse aujourd'hui que vous avez certainement vu, et c'est une question pour Monsieur Charles Groux, qui habite Charon, en Charente-Maritime. Le chef-d'œuvre de Paré peintre. Vous avez certainement vu ce titre dans la presse aujourd'hui.
Ah oui, Paré peintre.
Mais qu'est-ce que cache ce titre, le chef-d'œuvre de Paré peintre?
De Paré peintre. Comment ça s'écrit Paré?
P-A-R-E-T, peintre comme un peintre.
Ah oui. Un Paré peintre.
Le chef-d'œuvre de Paré peintre. C'est un titre dans la presse aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce titre?
Eh ben, c'est chez l'œuvre de Paré peintre. il a fait une œuvre.
Est-ce que Paré était un peintre déjà?
Non, pas du tout.
Ah oui. Est-ce que Paré est un homme en chair et en os, hein, de nos contemporains?
Paré peintre est un homme, oui.
Et c'est son nom de famille. Alors Paré, c'est son prénom, et peintre, c'est son, voilà. son nom.
Oui. Ah oui, voilà. Oui, oui, c'est comme
Arthur et Rubinstein, tu vois, c'est à peu près pareil. Voilà.
Alors, vous qui aimez les traits d'union, monsieur Bellamy, il y a un trait d'union entre Paré et peintre.
Ah oui, Paré.
C'est un nom de famille, il s'appelle voilà. Paré peintre.
Paré qu'il est peintre, mais il serait pas peintre tout à fait.
Dans votre alors, le chef-d'œuvre de bon, Paré peintre.
On n'a pas son prénom, hein.
Aurélien, je peux vous le dire.
Ah, bah voilà, oh,
Laurent. Voilà, ça nous aide, ça, quand même.
Aurélien, le chef-d'œuvre de Paré peintre.
Mais il n'était pas peintre,
ça
j'imagine.
Ça peut être un chef.
Quel journal c'était?
Eh ben voilà, ça vous ferait avancer.
C'était
si
Libération, ah, non?
C'est pas Libération.
La Croix.
Le Figaro.
Le Figaro, non.
Le Parisien.
Non plus.
Paris Boum Boum.
Ça n'existe plus. Ça n'existe plus.
Comment vous connaissez Paris Boum Boum?
Voilà que maintenant, il va chez Decathlon et il lit Paris Boum Boum.
Un autre journal qui est plus récent, en fait, qui est libéral, en fait.
Ah non, non.
L'Équipe.
Ah, bien sûr. C'est dans L'Équipe, évidemment.
Oui, ah, bah, c'est un footballeur qui a mis un goal.
On dit un but, Ariel.
Alors, on dit pas mettre un goal, sauf si le gardien et l'attaquant sont très proches. On dit mettre un but.
Voilà. Ah, bon, mettre un but.
Mais à chaque fois, il met des goals.
Voilà. Mais c'est pas un journal. C'est pas un journal, L'Équipe.
Ah, bah si, c'est un quoi, alors?
C'est un journal. C'est un truc, des sports.
Ben, oui, ça paraît tous les jours.
Aurélien paraît pas, il a fait
L'Équipe. Alors, en tout cas, ça n'est pas un footballeur.
Bon. Okay. Alors, est-ce que c'est
un basketteur?
Un basketteur, non.
Un rugbyman.
Est-ce que c'est un cycliste qui aurait pédalé de manière étonnante?
Alors voilà, effectivement, ah oui, Aurélien oui. Paré peintre est un cycliste. Ah. Alors il vous reste à trouver maintenant
bah, le Giro d'Italie.
Son chef-d'œuvre.
C'est le gagnant du Giro.
Alors pas le gagnant, mais il a gagné quoi?
Une étape du Giro.
Il a gagné la 4e étape du Tour d'Italie. Bravo, bravo. La réponse, c'est... Bravo. Donnez-le à Jean-Fille, monsieur Paré peintre, en train de franchir la ligne d'arrivée. Son
mais il est tout nu.
Eh ben, dis donc. Ah ben, le chef d'œuvre de Paré peintre.
C'est ça, le chef d'œuvre.
Il est vraiment nu, non? Tu rigoles. Il est pas nu.
Madame Janssen, Paré peintre.
Oh. Donc, c'est...
Ah, il vous plaît bien?
Oui, ça va bien.
Il a l'air beau.
J'aime bien les cyclistes. Je suis un peu fétichiste, mais alors je voudrais faire l'amour avec Spider-Man ou alors avec quelqu'un qui a une tenue de cycliste avec
Attendez que je comprenne. Vous voudriez faire l'amour avec Spider-Man?
C'est un de mes fantasmes.
Mais c'est qu'il n'existe pas.
Oui, je le sais.
Je connais un Spider-Man dans le 4e arrondissement le soir vers 23h30. Je peux te le présenter. Hein.
Et pourquoi vous voulez faire l'amour avec Spider-Man?
Ben, je ne sais pas. C'est le seul héros que je voudrais faire l'amour avec Spider-Man. Alors, bien sûr, j'ai bien compris qu'il n'existait pas. Donc, vous habillez quelqu'un en Spider-Man qui l'a jamais
vu.
Et je veux pas le voir, hein. Il a un cagoule
et tout. Il fait plus le ménage chez lui. Ça fait 3 ans qu'il fait plus le ménage chez lui. Il y a des toiles d'araignée partout. Dans l'espoir que Spider-Man arrive. Non, mais enfin, c'est n'importe quoi.
Mais j'y arriverai. Oh, ben, c'est un fantasme accessible, hein.
En fait, quand il est avec quelqu'un, il lui dit de s'habiller comme Spider-Man.
Mais oui, c'est j'hésite. Fantasme. J'ai essayé une ou deux fois, j'ai bien vu que c'est coincé.
Bah,
tu finiras comme Charles d'Angleterre. Non, tu sais pourquoi? Parce que tu seras appelé à régner.
Oh,
ah. Non, mais enfin, alors, donc, à part Spider-Man,
oui.
Après, c'est les cyclistes, c'est ça?
Oui.
Pourquoi les cyclistes?
Parce que j'ai tous les machins qui collent à la peau, les lycras, machin, tout ça, c'est ça.
Ouais,
c'est
ouais.
Pas parce le qu'ils sport. S'en vont très vite.
Moi, je m'en fous, ils peuvent venir en cycliste, mais sans vélo, hein, je m'en fous.
Oui.
Non, mais c'est peut-être à cause des mollets bien galbés.
Ah, ben ça, j'adore les mollets. Alors,
ah, voilà. Vous adorez les mollets. Au petit déjeuner.
Quand les... quand les gens commencent à se découvrir l'été qu'ils mettent des bermudas, mais moi, ça m'en fout.
Ah bon?
Je regarde les mollets comme ça.
Ça alors.
Ah, oui. Ah bon,
vous demandiez toujours quand vous étiez steward à passer par le triangle des Bermudas.
Mais le chef-d'œuvre, c'est quoi? C'est ces bijoux de famille? Ah, alors, non, c'est ça.
Mais oui. Ouais. Mais monsieur Bellamy, vous n'avez pas compris encore?
Non. Non, il est encore sur Rubinstein.
Mais vous savez, je vous dis une chose, j'en dis parce que c'est la vérité.
Oui.
Que j'ai toujours écouté les entretiens que faisait monsieur Bellamy.
Oui.
Et jamais il ne m'a invité.
Eh ben, il a eu raison.
Et moi, j'ai rêvé du jour où il m'inviterait jamais.
Parce que j'ai invité Ariel qui m'a dit « Bon, la seule chose que je vous demande, c'est elle, ne l'invitez pas. »
C'est vrai, ça, pourquoi vous n'avez pas invité Marcela Yacoub à cette époque?
On ne peut pas inviter tout le monde.
Ah oui, mais je ne suis pas tout le monde.
Ça, c'est sûr.
Les grands moments des grosses têtes sur RTL.
Britney Gallivan, en 2002, a réussi à le faire plus de 7 fois. Et c'était un exploit. Quoi donc?
Ah, c'est une femme, ah, Britney.
Une femme, oui.
C'était en Belgique?
Oh, écoutez, non, elle a fait ça, mais peu importe l'endroit, elle a fait ça chez elle, en Grande-Bretagne.
Ah oui.
Et elle a réussi à le faire plus de 7 fois, ce qui était un exploit.
Est-ce que les autres femmes peuvent le faire une fois?
Femme ou homme, personne ne peut le faire plus de 7 fois.
Tourner sa langue.
Tourner sa langue, non.
Mais, faire sauter une crêpe.
Est-ce qu'on peut le faire au moins une fois facilement?
Oui, mais jamais plus de 7 fois.
Ah, de plier un bout de papier.
De plier une feuille.
Ouais.
Bonne réponse. D'Isabelle Mergaux.
Comment elle a pu faire?
Car en effet, tout le monde peut essayer chez soi. Vous prenez n'importe quelle feuille, une feuille devant
une
vous.
Une grande, une petite, une
vous
grande.
Vous ne pourrez jamais, quelle que soit la taille de la feuille, la plier plus de 7 fois. C'est mathématique.
Mais comment elle a fait?
Alors elle a trouvé une astuce, cette jeune femme qui s'y connaissait en mathématiques. C'était une lycéenne. Elle a pris du papier toilette d'une longueur totale de 1200 mètres qu'elle a arrivé à plier 12 fois. Car en effet, si vous prenez un papier sur une énorme longueur, c'est mathématique, là vous arrivez à plier ce papier plus de 7 fois. Mais normalement, si vous faites l'essai avec n'importe quelle feuille de papier, même un petit bout de papier, on ne peut pas le plier plus de 7 fois.
Même un papier très souple.
Même un papier très très souple.
Là, on peut imaginer que c'est
l'infini. C'est l'infini. Oui, il faut un rouleau de PQ au départ.
1200 mètres de PQ, elle est au Mexique ou quoi?
Et elle a donc
elle n'est pas allée dans le train, parce qu'en général, il y a 3 feuilles.
C'est vrai.
Que se passe-t-il?
Je sais pas, j'ai une baisse de morale.
Mais c'est un peu comme Molière, elle est un peu morte.
C'est dégueulasse de lui mettre une belle à côté, c'est dégueulasse.
Mais en plus, vous tenez le dos que vous avez.
Non, là, une petite douleur dans le dos dès qu'elle rit. Alors, elle me demande d'arrêter de la faire rire. Je peux pas, moi.
C'est mieux d'arrêter la
sodomie. C'est malgré moi. Ok, un moment de poésie, s'il vous plaît.
Dans ces cas-là, on enchaîne très vite avec une question, Karine. Et en plus, comme vous semblez connaître toutes les réponses...
Oh, mais bien sûr, regarde-le. L'autre, il lui a filé toutes les réponses avant qu'il fasse.
La dernière fois que c'est arrivé, ce sera une question... Merci, monsieur Balfi, qui m'apporte un verre d'eau. C'est bien d'être comme ça avec moi, d'être prévenant. Qu'est-ce que vous faites, Philippe?
On vous donne un billet.
Ils s'en foutent. Il faut expliquer aux auditeurs qu'il y a concours de faux-cuterie.
Vous deux, je m'en sers très peu.
Mais qu'est-ce que vous avez tous?
Mais non, mais tout ça parce que tout à l'heure, une dame dans le public qui se trouve ici à ma droite m'a signalé que vous avez perdu votre serpillère, je veux dire votre écharpe, qui était tombée. Je vous l'ai remis sur le bureau. Là, il y a Baffy qui me traite de faillot et qui vous apporte quoi?
Un verre d'eau.
D'ailleurs, je vais le boire tout de suite.
Donc, du coup, je me suis dit, je vais lui niquer la gueule. Et j'ai pris un billet, pour faire une blague,
de
il est à moi
euros,
ce billet de 50 euros. De 50 euros.
La meuf va vous le garder.
Je te signale qu'il boit l'eau, mais il ne met pas l'écharpe. Hein.
C'est la première fois que vous buvez du GHB.
C'est donc 350 euros que peut gagner monsieur Perrier, qui habite... Paris 14e, sauf si évidemment...
Karine Le Marchand trouve la bonne réponse.
Sauf si Karine Le Marchand trouve la bonne réponse. 2 pages entières, c'est dans les premières pages, vous savez...
Les pages des photos.
Les pages des belles photos qu'il y a dans VSD. Et là, c'est un artiste néerlandais qui s'appelle Bart Janssen, qui, je dois dire, a réussi à faire voler quelque chose de très...
Son chat empaillé.
Son chat empaillé. Bonne réponse de Laurent Baffy.
C'est-à-dire...
Non.
Alors là, écoutez, bravo, parce que j'ai la photo, je vais vous montrer.
C'est comment ça, il l'a fait voler?
Incroyable, il a mis des hélices, évidemment.
Où est-ce qu'il lui a mis?
Ah ben regardez, alors le chat était...
Montrez. Mais c'est atroce.
C'est horrible.
Mais c'est atroce,
mais
ton
non,
truc.
Mais non, puisqu'il est empaillé.
Mais oui.
Non mais merde.
Ça serait moche s'il le lâchait du haut d'un immeuble.
La photo est prise très près où le chat est énorme.
Ah non mais...
Énorme.
T'as un gros chat, et il était en Seine-et-Marne encore il y a quelques jours.
Ah, il fait une tournée de promotion pour l'instant.
Non mais il l'a pas empaillé exprès, hein, il faut quand même le dire. Il adorait son chat qui s'appelait Orville. Et il lui avait, faut dire, donné le nom justement d'un aviateur, Orville White. Et ce chat qui s'appelait Orville a été renversé à l'âge de 4 ans par une voiture. Et là, il s'est dit, cet artiste, eh bien, je vais transformer mon chat en objet étonnant. Et donc, il l'a fait empailler.
Eh ben, on devrait faire ça avec Christine.
On aura du mal à décoller.
On peut la gonfler.
On
peut la gonfler à l'hélium.
Il lui a installé à son chat des hélices au bout des pattes, ainsi qu'un dispositif télécommandé. Et donc c'est comme un drone. Il fait voler son chat et c'est son vrai chat empaillé. Je peux faire passer les photos dans le public. Bien vous sûr. Achèterez VSD en kiosque si vous voulez vérifier. Je sais qu'en tant qu'animaux,
en tant qu'animal, tu revendiques le droit de me faire empailler.
En tant que protecteur des animaux, Laurent Baffy, ça a dû vous choquer, hein.
Eh bien, détrompez-vous, parce que j'ai acheté un chien empaillé que j'ai trouvé sur le Bon Coin. C'est un chien gigantesque, énorme, qui était très aimé dans une famille, et puis après les gens sont morts, donc c'est des enfants qui ont hérité de ça. Ils l'ont mis sur le Bon Coin, je l'ai acheté, et je lui donne une deuxième vie. Je lui ai fait faire des photos chez Harcourt et je lui ai pris un agent pour que ce chien ait une deuxième vie. Et comme il bouge pas, je l'ai appelé Stop, le roi du pas bouger, et ce sera une star bientôt.
Stop, le roi du pas bouger.
Combien vous l'avez acheté?
400 euros.
Quand même, hein.
Ouais, quand même. Oui.
Mais attends, explique-moi.
Et il faut voir, c'est très mignon de voir Laurent avec son chien, il lui dit, ne va pas chercher la baballe.
Et
le chien obéit.
Mais sans indiscrétion, tu cherchais quoi à l'origine, quand t'étais sur le site, pour arriver sur chien empaillé?